voix nue. Cette semaine, Odile Conseil rencontre Jean-Paul Rapneau. Ce soir, travailler les scénarios, aimer les acteurs et surtout les actrices. Jean-Paul Rapneau, bonsoir.
Bonsoir.
C'est la troisième soirée que nous passons ensemble à parler de votre vie et surtout de vos films. Nous vous avons quitté hier sur La Vie de Château, où apparaît déjà ce qui fait votre patte, des dialogues ciselés, un tempo allegro, allegro ma non troppo, un air de screwball comédie, comme on peut dire aux États-Unis, et ce qui est votre style, un peu du mouvement avant toute chose, je dirais. C'est peut-être, avant qu'on revienne sur vos films, j'aimerais que vous nous parliez justement de la façon dont vous les préparez, ces films, dont vous y insufflez ce mouvement. Vous avez des temps de préparation qui sont longs. Qu'est-ce que vous faites pendant ces années-là?
Eh bien, j'ai un hamac dans mon jardin. Non, c'est pas ça. C'est une blague. Écoutez, non, mais c'est-à-dire qu'effectivement, je n'ai, contrairement à d'autres, mais c'est comme ça, chacun sa manière, donc je n'ai jamais un film d'avance. Donc, je suis tellement investi dans le film, ça devient ma vie elle-même. Comme pour d'autres d'ailleurs, mais que quand le film se termine, je suis comme un naufragé sur la plage. Alors le bateau est parti, le bateau a disparu, ça veut dire que le film vit sa vie. Et à ce moment-là, pendant quelques temps, je suis un peu dans l'attente d'un nouveau. Je ne sais pas quel sera le prochain voyage. Au fond, un film c'est un voyage, mais c'est quand même un film, c'est quelque chose dont on a rêvé. Enfin. Moi, j'essaie de voir se concrétiser ce rêve qui est passé à un moment donné. Et puis, au hasard des lectures, des...
Donc, vous laissez des lectures, des souvenirs remonter et faire des bulles dans votre cerveau pour repartir sur une idée?
Oui, peut-être. Enfin, je pense à... Après Les Mariés de l'an 2, on a été invité au Brésil pour présenter le film. Enfin, il y avait une semaine du cinéma français à Sao Paulo, enfin São Paulo, et un jour on est descendu jusqu'à la mer, au port qui est en bas sur la côte, Santos, et j'ai vu au loin une île, il y avait et j'ai demandé ce que c'était, est-ce qu'on peut y aller? Oui, vous pouvez y aller, il faut un peu de temps, mais enfin vous pouvez y aller, mais c'est en fait un jardin botanique, et on m'a montré des photos de cette île. J'ai regardé aussi à la longue vue, j'ai regardé l'île, qui ressemblait effectivement de loin à une toile du Douanier Rousseau.
Une luxuriance
extraordinaire, mais ben oui, c'est un jardin botanique. Et quand je suis revenu en France après, j'en ai parlé avec Elisabeth, ma sœur, Elisabeth Rapneau, qui était ma collaboratrice vraiment à l'époque. Et je lui ai parlé de ça, on pourrait chercher une histoire d'un type qu'on trouverait au début à São Paulo, dans cette mégapole terrible, dangereuse, polluée, mais qui en fait, il était dans cette ville pour quelques heures, quelques jours, et après il retourne là où il vit vraiment, c'est-à-dire dans une île qui est au large, beaucoup plus loin que celle qui était dans la réalité à Santos, et il mène une vie de Robinson. Le contraste entre Robinson et les poursuites en voiture sur les autoroutes urbaines, je pensais qu'il y avait un film. Et c'est devenu Le Sauvage. Donc c'est venu de cette vision d'une île lointaine et qui m'a rappelé les îles, mon amour des îles dans les livres de Jules Verne notamment, qui a fait plusieurs livres. Un qui s'appelait, je crois, 2 ans de vacances, non? C'est des enfants dans une île déserte, oui. Mais aussi un qui s'appelait, je crois, L'île des Robinsons. Enfin, l'île luxuriante et déserte faisait partie de mon bagage.
Donc, quand vous tenez une idée ou un début d'idée, qu'est-ce que vous faites? Vous avez, je vois là, dans vos étagères, des tas de cahiers, vous écrivez.
Ouais, je pense que tout commence toujours par le crayon et le papier. Je crois que pour faire ces images-là, pour faire naître une histoire, il faut beaucoup écrire. Il faut beaucoup écrire et... Ce sont des cahiers où c'est comme si je m'écrivais à moi-même. Et quelquefois, c'est en écrivant une chose que ça en emmène une autre. Et puis ensuite, je commence à raconter à des collaborateurs. Dans le cas du Sauvage, c'est ma sœur, justement, Elisabeth. Mais sinon, il y a eu toute une série de personnes jusqu'à Patrick Modiano pour Bon Voyage.
En parlerons, mais il y a eu aussi Jean-Claude Carrière, il y a eu Jean-Loup Dabadie.
Oui, bien sûr.
Pléiade de co-scénaristes. Oui. Pour vous, un scénario, ça s'écrit à plusieurs. Enfin, il vous faut
ping-pong. Oui, je crois qu'à un moment donné, je pense que c'est parce que c'est un spectacle, ça doit être vu par un public, et que quand... on doit à un moment donné le raconter à un public qui peut être une seule personne, comme vous en face de moi. Et la lecture du visage de la personne à qui on raconte est importante. Souvent, d'ailleurs, dans des enregistrements que j'ai fait de cela, on m'entend dire « Mais pourquoi tu grimaces ?» Parce que l'homme à qui je raconte l'histoire grimace brusquement. « Non, pas du tout, c'est un tic. Ah bon, j'ai cru que tu t'ennuyais. » Mais non, pas du tout. Enfin, il faut raconter, quoi. Enfin, vous avez dit cette phrase-là dans un autre de nos entretiens ces jours-ci. Jean-Paul, raconte-nous une histoire, disait-on à la fin des repas de famille.
Et il faut insuffler du mouvement aussi. Alors, parlons par exemple de votre second film, Les Mariés de l'an 2. Les Mariés de l'an 2, c'est un grand film d'aventure.
Oui.
Bon, on retrouve la guerre, la même guerre que celle de la vie de château, mais la guerre quand même, qui est la guerre civile au moment de la Révolution française, et puis la guerre de la France contre les Autrichiens.
Oui.
Et c'est un film aussi de cap et d'épée.
Oui.
Alors, quelle est la genèse de ce film-là?
Alors, peut-être parce que l'histoire est ce qui me plaisait le plus pendant toutes ces études. Je lis énormément de livres d'histoire, mais c'est vrai que dans les études du temps du collège et du lycée, je trouvais en histoire, au bout d'un moment, la litanie des rois, des Henri, des Charles, puis des Louis, ils arrivent enfin, et les Louis qui se succèdent, 12, 13, 14, 15, bien sûr, 16... Dans cette litanie des Louis, à un moment donné, j'en avais marre. Et j'attendais le moment, avec impatience, le moment où arrivait effectivement la fin de tout ça et la révolution. Là, et que quelque chose se mettait à bouger. Et comme j'ai pensé souvent que la France qui se coupe en deux, en trois, comme pendant les guerres de religion, comme pendant la révolution, le royaliste et les républicains, comme on retrouve cela en petit dans la dernière guerre, avec les collabos et les résistants. Enfin, effectivement, cet intérêt pour l'imagination d'un cinéaste qui aime les... On disait ça entre nous, les films qui en jettent. C'est peut-être ce que j'aimais beaucoup, moi, dans le cinéma américain des années 40 et 50. C'est que, au contraire du cinéma français, c'est que les films américains, peut-être avec l'arrivée de la couleur, mais puis l'invention du scope... Les films en jeté, même les simples westerns. Je pense à ce western avec, avec Jennifer Jones, qui s'appelait Duel au soleil. C'est peut-être un des premiers westerns que j'ai vus. Je crois qu'il a été fait en 45 ou 46, de King Vidor. Superbe, sublime, des couleurs, des images extraordinaires. Bon. Donc, très vite, après La Vie de Château, j'ai pensé que dans cette époque extraordinaire, de la révolution, enfin extraordinaire, avec les terribles choses qui s'y sont passées. Et le souvenir aussi, c'est ça peut-être. Dans les livres adorés, en période ancienne, il y avait le 93 et Victor Hugo. Et où me plaisait beaucoup ce début de l'histoire, où on est avec un bateau qui va vers les côtes françaises, il y a un drame à bord, avec... un personnage d'aristocrate qui veut revenir pour diriger le camp des Chouans en Bretagne, en Vendée. Si on parle de la Révolution, pensais-je, il faut parler de tous les camps, de tous les camps. Donc c'est plus la France coupée en deux, mais en quatre, en cinq. Et le mieux, ce serait à ce moment-là de commencer sur un bateau, pensais-je, comme dans Victor Hugo, avec un homme qui revient en France, c'est un type qui n'a pas connu les débuts de la Révolution, et j'ai pensé qu'il fallait que ce soit un Français, et qui découvre ce qu'est devenu la France pendant son absence. Et ça, c'était quelques temps après l'homme de Rio, où j'étais devenu finalement ami de Jean-Paul Belmondo,
Et vous avez écrit ce film pour lui. Enfin, oui, vous avez écrit le film en sachant qu'il tiendrait le rôle.
Ouais, oui, oui. J'en ai parlé d'ailleurs très vite et lui était emballé à cette idée-là. Et c'est que alors on lui a inventé une première vie en Amérique. Bon, et
puis au Nouveau Monde.
Le Nouveau Monde.
En quelques mots, on peut juste dire que donc c'est ce Français qui vient du Nouveau Monde, qui revient en France, parce que pour épouser une femme là-bas, il doit commencer par divorcer de son épouse française.
C'est ça.
Charlotte, dans le film, jouée par Marlène Jobert.
Marlène Jobert,
et donc,
oui.
Il arrive en pleine révolution, et il y a un tas de tribulations.
Oui, où il traverse justement tous les camps.
Voilà.
Et où il est pris pour un... il est l'ennemi de tous les camps, ce qui le met dans des dangers... Et puis il finit dans les armées de la Révolution qui doivent affronter les royaumes européens qui les agressent. Au fond, ça se termine à Valmy, presque. Enfin, une sorte de Valmy.
C'est un film vraiment à grand spectacle où il y a des chevaux, des batailles, des figurants à n'en plus finir.
Oui.
Vous ne l'avez pas tourné en France.
Oui, non, parce que à l'époque, je pensais que tout cela était finançable, ça l'était d'ailleurs, mais enfin finalement ça l'était, mais avec des précautions. Et la précaution, c'est que Gaumont, un homme qui s'appelait Alain Poiret, qui a produit un très grand nombre de succès, qui avait le nez ou l'œil, je sais pas, pour cela, alors que tout le monde avait refusé, lui m'a dit mais oui on pourrait, mais le seul moyen ça serait avec tous ces décors qui sont écrits dans votre script. On pourrait aller tourner ça en Roumanie, parce que moi-même j'ai produit un film en Roumanie. C'était le dernier film de René Clair qui s'appelait Les Fêtes Galantes. Donc si vous allez là-bas, là on pourrait le tourner pour un coût possible. C'est ce qu'on a fait.
C'est au début des années 70 et c'était l'époque de Ceausescu.
Et c'était Ceausescu. C'était le règne de la police secrète, un pays très pauvre, des gens malheureux. Et ça a assombri le tournage. Moi, je garde un souvenir, un sourire triste. J'ai dit cela, c'est intéressant, un sourire triste. Oui, en tout cas, un souvenir triste. Un sourire, parce que en fait, il s'agissait de faire un film que j'espérais assez gai, assez alerte. Et quand on allait le matin au studio, qu'on croisait toutes ces kyrielles de charrettes tirées par des paysans, charrettes tirées par des bœufs, de pauvres gens qui avaient du mal. Ils ont fini d'ailleurs par exploser quelques années plus tard, heureusement. Mais il y avait Jean-Paul Belmondo, c'est-à-dire que ce qui est formidable, c'est que dans son entrain, sa bonne humeur, son rire presque permanent, dans ces conditions-là, pour maintenir le moral des troupes, il m'a maintenu,
Porté, oui.
Porté.
Et le film est un succès d'ailleurs, et il est présenté à Cannes.
Oui, en effet, oui.
Le film suivant, c'est Le Sauvage. Donc vous avez déjà parlé de la façon dont vous aviez eu un peu l'idée de ce personnage qui se promène entre une île déserte et une mégapole. Et ce qui me semble intéressant sur Le Sauvage, c'est que vous nous racontiez la quête de l'acteur qui allait incarner ce personnage, homme donc, qui fait des va-et-vient, qui est un parfumeur qui a tout laissé tomber, son épouse et l'entreprise qu'elle dirige, mais avec laquelle il a un contrat, donc qu'il ne pouvait pas laisser tomber comme ça, et qui se retrouve à vivre de ses plantations de légumes et de fruits sur une île déserte. Alors, ça devait être qui, initialement?
Quand on a commencé à repérer, on s'est aperçu qu'au Venezuela, ça serait plus intéressant. Finalement, c'est au Venezuela qu'on l'a tourné. Mais en fait, ça se passait sur le continent américain. Enfin, du côté du continent américain. Donc, je pensais que ce personnage, ce drop-out, comme on disait à l'époque, le type qui a tout laissé tomber pour vivre une existence écologique quelque part, ça devrait être un acteur américain. Bon, et puis qui rencontrerait là-bas une jeune Française, et c'est elle qui viendrait dans son île le déranger. J'ai pensé longtemps à un acteur américain qui s'appelle Elliot Gould, qui était formidable dans ce film MASH. Enfin, il a fait beaucoup de films, notamment un film en Europe avec Bergman, qui s'appelait Le Lien. Et je lui ai proposé, on s'est écrit, et il était intéressé. Mais finalement, quand Raymond Danon, grand producteur de l'époque, a voulu faire le film, était emballé par cette idée, un jour je lui ai raconté l'histoire, Il ne voulait pas lire. Il m'a dit, mais moi, je préfère qu'on raconte, comme ça, je verrai sur votre visage à quel point vous tenez au film. Bon, donc, j'ai dû raconter pas mal, parce qu'à la fin de mon récit, il a dit, non, mais non seulement, je veux voir ça sur un écran, mais je veux le produire. Mais alors, vous me parlez d'acteurs américains? Ben oui, parce que ça se passe là-bas, en Amérique, enfin, pas loin de l'Amérique. Oui. Mais non, me dit-il, ce sera un grand film français, et pour un grand film français, il faut de grands acteurs français. Bon. Ah oui, mais alors, comment se retrouve-t-il le français là-bas, au bout du monde? Ah ben, ça vous inventerait quelque chose. Effectivement, on a tout à fait inventé ce qu'il fallait. Mais il fallait trouver l'acteur. Le personnage était un homme souvent, enfin, qu'on venait de déranger, parce qu'on l'appelle une emmerdeuse. Alors, je pensais que Alain Delon, qui d'ailleurs pratiquement jamais tourné de comédie, mais et s'en méfie, donc j'ai été voir Alain Delon en lui disant, bah, ça pourrait être,
pour le côté ombrageux que le personnage avait.
Ombrageux, oui. Je suis sûr qu'il aurait pu faire quelque chose de pas mal. Parce que dans le film, mine de rien, le personnage est en pétard tout le temps. En pétard contre... Trop grave, trop sérieux. Et Delon aurait pu, très bien. Non mais, enfin, il a dit... Oh, non, mais... vous me voyez grimper aux arbres et faire ma petite cuisine avec mon poisson et aller cueillir des bananes dans les palmiers. Je sais pas si les bananes poussent dans les palmiers, peut-être. Enfin bref, il n'a pas voulu, ensuite...
C'était une interprétation assez personnelle du scénario qu'il avait faite, parce que le personnage ne monte pas aux arbres.
Ne grimpe pas aux arbres, oui, mais enfin bon, j'ai regretté. Ensuite, évidemment, Lino Ventura, je faisais tourner des gens qui rendaient le film financièrement possible. La tristesse de cela, quand on fait un film cher, il faut passer par cela. J'en ai parlé à Belmondo, Jean-Paul, et... Ben, déjeunons, voyons-nous, oui, Parlement. Il est arrivé pour le déjeuner, mais il est arrivé au bras de Laura Antonelli, qui était sa compagne à l'époque, qui avait joué dans Les Mariés de l'an 2, très jolie, très belle femme, très charmante, très gentille fille, qui a eu une fin triste. Alors on m'a expliqué que s'il tournait le film, il faudrait le faire avec elle aussi, donc... Mais j'avais déjà eu ce couple-là dans les mariages. Non, j'ai pas. Donc, finalement, nous sommes allés voir Montand. Voilà. Bon. Yves Montand. Et c'est toute une histoire. Enfin, quand je revois le film, et je le trouve extraordinaire, le film, mieux que jamais. Et d'ailleurs, on en a fait un autre ensuite. Parce qu'on s'est beaucoup battu pendant le film, pendant le Sauvage. Mais après, il était tellement content quand il a vu le film qu'il a dit, mais nous devons une revanche.
Battu, ben, vous voulez dire battu, comment
Ah non, pas physiquement, quand même, oui. Mais des bagarres. Des bagarres. Et sur chaque mot. Enfin. Et puis, me soupçonnant de faire le film pour Catherine Deneuve.
Oui, dont on n'a pas encore dit qu'elle jouait le rôle de l'emmerdeuse, comme vous dites.
L'emmerdeuse. Et... que lui m'avait-il dit, je sais, un jour, au visage, je ne suis pas là pour servir la soupe. Alors, bon, ok.
Mais quel rapport avez-vous, en fait, avec les acteurs et les actrices? On vous avait travaillé pendant des années sur un scénario, vous avez, je pense, imaginé des personnages, vous les voyez tout d'un coup incarnés par un tel, une telle.
Oui.
Alors, il y a des metteurs en scène qui ont peur des acteurs, il y en a qui les considèrent comme un mal nécessaire. Vous avez quel genre de rapport avec vos acteurs et actrices, héros et héroïnes de vos films?
Alors, il se trouve que je les aime, et que c'est pas de la blague, Quand je les vois dans les premières scènes, que je les vois dire ces répliques que je connais par cœur, qu'on a écrites ici avec Dabadie ou Boulanger, et que je les vois dire ces mots-là avec mieux que je pouvais imaginer, il y a une émotion, enfin, je suis d'abord un spectateur, quoi. Un spectateur fier que ce soit justement dans ce film-là, mon film à moi, que... alors, les actrices. Alors, si on n'aime pas les actrices, alors il vaut mieux... si on est cinéaste sans aimer les actrices, il vaut mieux peut-être devenir, je sais pas, un boulanger ou... Je ne sais pas quoi.
Ou avocat.
Ou avocat, ben avocat, par exemple, oui, ça serait pas bête, ça. Non, mais...
Oui, Montand, avec qui il y a eu des frictions pendant le tournage du Sauvage, bon, ça n'a pas causé une brouille infernale, puisque vous avez refait un film ensemble, après.
Oui, c'est lui-même donc qui m'a, après le film, le succès du film, avait dit, mais alors, on se doit une revanche éclatante. Et alors là, disait-il, si on en refait un autre, je serai comme un violoncelle entre vos doigts. Parce qu'effectivement, j'ai beaucoup de remarques. Bon.
Et donc, le film suivant, ça a été Tout feu, tout flamme.
Tout feu, tout flamme.
Avec Montand et Isabelle Adjani.
Isabelle Adjani, oui.
Et là, ça voilà. S'est bien passé avec Montand ?
Oui, oui, bien sûr. Mais peut-être parce que je ne voulais pas recommencer des batailles. Donc, je le laissais un peu faire. Et je le trouve quand même un peu moins bon dans Tout feu, tout flamme que dans Le Sauvage. Parce que là, il appliquait, c'est pas une théorie, mais enfin, il appliquait une de ses maximes, je sais pas quoi, c'est que dans un film drôle, enfin, c'est drôle, dans un film qui veut être drôle, il faut jouer d'une façon drôle. Alors, il aimait bien, enfin, il le fait de temps en temps dans Tout feu, tout flamme, faire le rigolo. Et alors, ça se déteste, ça. Ça veut dire une manière de marcher, des petites mines, enfin, il y a ça un petit peu dans Tout flamme, et je me souviens de Pierre Lhomme, mon cher ami Pierre Lhomme, opérateur, qui me disait pendant que, dans un instant, il me disait, mais non, mais attends, calme-le, là, dis-lui, ça ne va pas du tout, là, c'est ridicule, c'est quand il marchait bizarrement, quand il marchait comique, alors, et moi lui disant, non, laisse-le faire, il est content, ça va. Je ne voulais pas l'entendre encore protester. Bon. Mais cela dit, bon, le film est pas mal.
Et dans Tout feu, tout flamme, on retrouve des histoires autour de maisons, de ventes de maisons, sauver un casino. On retrouve là une réconciliation avec un père aussi.
Ben oui, il y a ça, oui, oui. C'est une fille.
Là, c'est avec une fille. Oui. Mais on reviendra aussi au thème de la réconciliation avec le père. Dans Belle Famille, ça ce sera dans les jours à venir.
Père et fils,
et puis il y a deux camps aussi, comme vous aimez bien qu'il y ait deux camps en général dans les films. On retrouve vos dadas en quelque sorte.
Oui, c'est ça. Toujours les histoires de la famille suisse et la famille française. Effectivement, avant la guerre, on allait souvent en vacances en Suisse à cause du grand-père, du fameux grand-père suisse. Et pendant la guerre, on n'avait pas le droit d'aller en Suisse, mais par contre, c'était là-bas le pays de la paix. Donc on a été une certaine année en vacances au bord du lac de Genève, mais côté français, et on regardait en face la rive où on pouvait manger du chocolat. Mais en tout cas, et j'ai repris ça dans Tout feu, tout flamme, et un casino qui se bâtit, je me souviens plus, c'est en France, en Suisse, enfin en tout cas, la traversée du lac joue un rôle dans le film, comme ça a joué un rôle pour nous, enfants, pendant la guerre.
Donc, pour revenir sur vos relations avec les acteurs et les actrices, Isabelle Adjani, je crois que c'est dans Le Bonus, elle parle de vous, elle dit, mais Jean-Paul Rapneau, il est son film, il est EST, hein, il est son film, et il trépigne de joie quand on dit ses répliques, et on est très très content de jouer pour lui. Donc manifestement, elle a été absolument...
Oui, je l'ai beaucoup aimé dans ce film. On en a fait un autre ensuite, Bon Voyage.
On y vient, oui.
Oui, je l'aime beaucoup, j'aime son rire.
Dans Tout feu, tout flamme, il y a donc Isabelle Adjani qui est face à Yves Montand. Isabelle Adjani que vous allez retrouver un peu plus tard dans Bon Voyage, qui sort en 2003. Vous retrouverez aussi d'ailleurs Depardieu, avec qui vous aurez fait Cyrano dans l'intervalle. Donc avec Bon Voyage, on revient à la période de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Mais autant La vie de château, c'était la fin de la guerre, c'était le débarquement. Là, on est au tout début, au moment de la débâcle.
Oui. Ce sont j'ai traité deux mois de juin de l'histoire de France. Alors, juin 40. Donc, les Allemands se retrouvent à Saint-Jean-de-Luz en 15 jours. Et juin 44, c'est le début de la libération de la France. Enfin, juin 44 pour Vichateau et juin 40 pour, justement, Bon Voyage. Avec, évidemment, le souvenir de ce qu'on a appelé l'exode que j'ai vécu avec mes frères et sœurs et ma mère et voilà. Donc, ces images si connues des tractions avant sur les routes avec les matelas sur le toit, j'étais dans la traction avant. Et il y a surtout cette chose que j'avais lue à l'époque, quand je pensais à un film, c'était après Le Hussard sur le toit, lisant des choses sur Bordeaux, où l'ensemble de l'establishment français, le gouvernement, toute la France qui compte, les acteurs, les banquiers, tout le monde s'est retrouvé pendant quelques jours à Bordeaux dans une panique extraordinaire, et notamment dans un hôtel qui n'existe plus, qui s'appelait l'hôtel Splendide, et c'était le meilleur hôtel pour ceux dont je parlais, l'establishment. Donc tout le monde voulait être au Splendide, mais il n'y avait pas assez de chambres pour tout ce monde-là, donc c'était une bagarre surtout terrible, et je pensais que ce serait formidable, moi qui... Là m'est revenu le souvenir du tournage de Cyrano, au fond là, le plaisir que j'ai eu, c'était un nouveau plaisir de metteur en scène, de diriger les foules, de diriger les mouvements généraux de 300 ou 400 personnes, comme dans le théâtre au début, dans Cyrano de Bergerac. Et on peut dire chorégraphier la figuration. Chorégraphier la figuration. Et je veux dire, alors là, dans l'hôtel Splendide, si j'ai une bonne histoire, ça serait vraiment un délice. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a écrit avec Patrick Modiano, notamment, que j'ai rencontré à cette époque-là. Et il me dit, alors, qu'est-ce que vous préparez? Alors, il pensait que je préparais effectivement... quelques temps avant un film qui se passait à l'île d'Elbe, quand Napoléon y était prisonnier. Et finalement, le film n'a pas abouti, on ne l'a pas fait. Mais alors, j'ai dit à Modiano, non, pas du tout, je prépare un film qui se passerait à Bordeaux en juin 40. Alors là, ça, il connaît par cœur, Modiano. Il a... D'ailleurs, il y a une chose qu'il a écrite, c'était un livre qui s'appelle Interrogatoire, et qui, en fait... Il interroge Emmanuel Berle, l'homme qui avait, dit-on, enfin je crois que c'est vrai, écrit les premiers discours de Pétain. Donc sur Bordeaux, il était plus renseigné que qui que ce soit, Patrick. Et le lendemain de ce jour où je lui dis cela, eh ben, il s'est retrouvé ici dans mon bureau pour qu'on essaie d'inventer une histoire qui pourrait être comme celle de Bordeaux. Voilà.
C'était bon voyage et moi je vous dis bonne soirée, Jean-Paul Rapneau. À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Odile Conseil avec Jean-Paul Rapneau. Voix nue, réalisation Nathalie Salle, prise de son Georges Thau, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.